Sud Radio, les clés d'une vie de l'été. 13h-14h, Jacques Pessis.
Barbara Pravi. Sa deuxième place au Grand Prix de l'Eurovision a mis en lumière une vie et une carrière déjà bien remplies. Son premier métier, serveuse, pendant 5 ans. Ses débuts sur scène, en première partie de Florent Pagny. Des souvenirs, parmi beaucoup d'autres, à découvrir tout de suite dans ses clés d'une vie.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Bonjour Barbara Pravi.
Bonjour.
Alors, première chose, première date, 4 novembre 2016, c'est la première de ce spectacle.
Où es-tu, Lily sans sommeil?
Un été 44, un spectacle qui se déroule entre le jour J et la libération de Paris. Comment êtes-vous arrivée dans cette aventure, Barbara Pravi?
C'est une histoire un peu étonnante. En fait, mon père est très ami depuis très longtemps avec un homme qui s'appelle Eric Benzi, qui est un grand compositeur, auteur-compositeur, etc. Et il avait pour projet l'année de mes 18 ans, donc il y a presque 10 ans, puisque j'ai 27 ans, donc il y a 10 ans, disons, de monter un projet pour les 70 ans de la Libération, de l'anniversaire de la Libération. Et donc, du coup, il avait appelé tous ses potes, et ses potes, c'est Jean-Jacques Goldman, c'était Aznavour, c'était tous ces hommes-là, Maxime Le Forestier, etc., pour écrire des chansons en lien avec la Seconde Guerre mondiale, la France à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, j'avais 18 ans, je venais d'avoir mon bac et il m'appelle et il me dit « Écoute Barbara, j'ai ce projet-là, ça va bientôt être les 70 ans, est-ce que ça te dit de venir faire des voix de maquette ?» Et j'ai dit oui. Et je suis allée chanter une chanson d'Aznavour qui s'appelle « Seulement connu de Dieu ». Et puis le projet est un petit peu tombé aux oubliettes. J'ai plus de nouvelles pendant 3, 4 ans, 5 ans peut-être. Et puis Valérie Zetoun a repris le projet pour en faire une comédie musicale cette fois. Et c'est comme ça que je suis entrée dans l'été 44.
Voilà, et justement cette chanson « Seulement connu de Dieu » d'Aznavour, on l'écoute.
Seulement connu de Dieu, quel jeune tu y ailles, anonyme.
Une musique de Charles Aznavour qu'il avait composée pour cette comédie musicale qui a débuté à Caen, qui ne devait pas au départ aller à Paris, je crois, et qui s'est déroulée au Comédia. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le Comédia, c'est un café-concert qui s'appelait l'Eldorado avant, Barbara Pravi. Et en 1975, une jeune femme fait sur scène un numéro qu'elle appelle la gommeuse épileptique et elle débute ses mistinguettes.
Ah, je ne savais pas du tout.
Dans ce lieu, voilà.
D'accord.
Alors, c'est cette comédie musicale donc a débuté et ça a changé votre vie finalement.
Il y a beaucoup de choses qui ont changé ma vie. Je ne crois pas qu'il y ait un seul élément, parce que sinon, ça fait 6 ans que je fais ça, sinon ma vie aurait changé avant 6
oui,
ans.
Mais enfin, ça vous a permis d'avoir un coup de projecteur supplémentaire.
Oui, et puis c'est surtout que ça m'a... En fait, ce dont je me rends compte, c'est qu'être dans un tel spectacle, parce que c'est quand même un truc avec plein de techniciens, on était 8 sur scène, beaucoup plus avec les musiciens, mais 8 chanteurs sur scène, etc. C'est-à-dire que ça nous donne un espèce de rapport à la scène et au travail qui est très besogneux et très intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui... par exemple, j'ai pas peur d'avoir de problèmes techniques, je suis capable sur scène je réagis très très vite et je crois que c'est en partie grâce à été 44 parce qu'on devait pallier justement parfois il y avait des lumières qui partaient pas, du son qui partait pas, et en fait nous on devait continuer de tracer notre route, et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on n'apprend pas autrement qu'en ayant la chance de faire partie d'un gros spectacle ou d'un mouvement de spectacle qui soit régulier quoi.
Alors, dans l'été 44, vous étiez une jeune Normande qui découvre la guerre. Et la guerre, votre famille l'a connue à travers votre grand-père qui, je crois, a fui la dictature de Tito.
Exactement. Ma famille serbe.
Oui, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a 3,5 millions de Serbes dans le monde sur 12 à 13 millions en général. Ils sont exilés et ils vivent un peu partout, dont en France. Et Tito, c'était un autocrate total. Il faut rappeler que non seulement il a dirigé un pays comme communiste, mais en même temps, il avait un luxe total dans son quotidien. Il avait un yacht. Et un jour, Richard Burton lui rend visite et dit « Il vit dans un luxe remarquable. Je crois que tout cela ramène le palais de Buckingham à une maison pour classe moyenne. »
C'est marrant. Ouais, c'est étonnant pour un communiste. Non, de l'histoire de mon grand-père, je sais seulement que ce qui m'a beaucoup touchée, moi, c'est qu'il est parti, il avait donc 21 ans et il pouvait évidemment pas en parler, ni à ses parents, ni à personne. Donc en fait, il a fui son pays sans le dire à à personne. Et il est arrivé en France, et je crois que ses parents ont été au courant 1 ou 2 ans après. C'est-à-dire que ses parents devaient penser qu'il était mort, en fait, puisqu'il n'avait aucune nouvelle. Et au bout de 1 ou 2 ans, il a pu enfin envoyer une lettre, ou je crois que c'était une lettre d'ailleurs, pour leur dire, écoutez, je suis en vie, c'est leur fils unique en plus, je suis en France, et tout va bien.
Et ce grand-père, vous l'avez chanté, Déda.
Oui.
Allez, donne-moi ta main, Déda, Déda. Dis rien si tu ne sais pas quoi, Déda, Déda.
Alors ce grand-père, finalement, parlait serbe en arrivant. Est-ce que vous avez appris cette langue, finalement, Barbara?
Pas du tout. Alors, il l'a appris, mon grand-père a eu 5 enfants. Il l'a appris à ses 5 enfants, mais qu'ils l'ont plus ou moins perdu, parce que quand on pratique pas une langue, jamais, à un moment donné, ça se perd un peu. Par contre, c'est marrant parce que je me rends même plus compte, mais c'est vrai que mon grand-père, il m'appelle Barbara, il parle comme ça, et il parle français avec un accent serbe extrêmement prononcé. Et moi, c'est très commun et très courant, quoi, dans mon oreille, et voilà. Mais ouais, je parle pas serbe, non.
Mais en même temps, vous appelez Pravi, alors que votre vrai nom, c'est Pjevic. C'est un hommage à votre grand-père, parce que je crois que ça signifie en serbe Prava, l'authentique.
Exactement. Et à vrai dire, le Pravi, c'est le masculin. Et c'est Deda qui m'a dit, en fait, normalement, on devrait dire Prava pour dire authentique, mais je trouve que toi, Pravi, ça te va bien.
Oui, et en même temps, vous avez aussi un grand-père maternel qui est iranien. C'est un mélange.
Tout à fait, persan, ouais.
C'est un beau mélange, les deux.
C'est un drôle de mélange. Et j'ai aussi 2 grand-mères, une juive polonaise et une juive pied-noir d'Algérie. Donc ça fait vraiment un sacré fourre-tout, quoi.
Alors, dans la famille, la passion d'enfance, ce sont les livres et la musique. La musique a une importance considérable, Barbara Pravi.
Alors oui, bien sûr. Mais c'est marrant parce que, par exemple, mon père est très écoute beaucoup. Il est vraiment très, très, très calé en musique classique. C'est un grand, j'allais dire, érudit de musique classique, mais quelque chose comme ça. Il connaît tout par cœur. Il reconnaît la première note, quel concerto, de qui, en quelle année, etc. Et c'est quelque chose que je trouve, avec le recul, il m'a pas beaucoup transmis. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de musique chez moi, mais il m'a pas appris. Mais parce que je pense que moi, j'étais pas réceptive. Donc j'ai eu l'habitude d'entendre de la musique, mais je n'ai jamais eu l'habitude de savoir qui c'était, comment, pourquoi. Et en fait, du coup, moi, quand j'ai commencé à découvrir la chanson française un peu plus tard, à l'adolescence, je me suis vraiment fait une culture personnelle. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chansons françaises. Il n'y avait pas beaucoup d'autres choses que de classiques chez moi, à vrai dire.
Oui, alors je crois que les chansons qui vous ont marqué enfant, ce sont les chansons de la comédie musicale Roméo et Juliette et Céline Dion.
Oui, et les 10 commandements aussi. Oui, ouais, complètement.
Ça vous a marqué?
Bah, ça m'a marqué parce que c'était les seuls disques de variété qu'on avait à la maison. Et donc, du coup, c'était les seuls disques avec des paroles en français. Et c'est vrai que je chantais beaucoup, ouais, ces disques-là.
Et alors, la musique serbe, en revanche, je ne suis pas sûr que vous la connaissiez. Je me suis un peu renseigné. L'instrument de musique le plus populaire en Serbie, c'est le gusla.
D'accord.
Voilà. Et les instruments les plus utilisés en Serbie, c'est l'accordéon et la trompette.
Ok, voilà. Bah écoutez, en même temps, la trompette, ça m'étonne pas tant que ça, parce que c'est des instruments assez... Pour moi, ça fait référence à la musique tzigane. J'ai très très envie d'aller en Serbie et en règle générale, dans le monde, quoi, faire des espèces de petites tournées pour apprendre les musiques locales. Et je pense que je commencerai par la Serbie le jour où je ferai ça.
Est-ce que vous avez commencé par des études de droit?
Oui, pas très longues.
Ça vous intéressait pas?
Oh si, j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais par contre, je suis quelqu'un de... C'est très difficile pour moi, les études. Je suis complètement ascolaire. Et du coup, c'est très dur pour moi de me retrouver dans un amphi pendant 6 heures et d'écouter quelqu'un parler. Pour moi, il n'y a aucune chaleur là-dedans. Et j'ai besoin d'apprendre de l'autre. Et c'est très dur, en effet, d'apprendre à 700 personnes en même temps. En disant les mêmes mots, enfin, je veux dire, les mots se vident d'une substance qui permet de donner envie, je trouve, voilà.
Et puis en même temps, vous préférez, vous, de toute façon, la chanson. Comment est venu l'amour de l'écriture des textes? Est-ce que c'est en écoutant Barbara, Brel et Brassens, Barbara Pravi?
Oui. Alors j'ai toujours aimé. Ça fait longtemps que je lis. Je lis depuis toujours. Donc je pense que l'amour des mots m'est venu de la lecture. En revanche, écrire moi-même, un des souvenirs que j'ai qui est très précis, c'est un jour, je suis tombée sur un intégral de Barbara et j'écoutais pas encore Barbara à l'époque. Donc, je suis vraiment tombée sur ce bouquin avec tous ces textes comme ça. Et j'ai été bouleversée parce que c'était vraiment écrit comme des poèmes. Et avant même de savoir quelle était la mélodie associée aux mots, moi, j'entendais des choses dans ma tête en les lisant. C'est-à-dire que ça rimait, il y avait, je sais pas moi, attendez que ma joie revienne et que se meure le souvenir. Il y avait une espèce de façon juste à la lecture, il y avait une mélodie déjà. Et j'ai été vraiment bouleversée par ça. Et je crois que c'est la première personne qui m'a donné envie d'essayer.
Et Brel ?
Et Brel, je l'ai entendu avant de le lire. Et du coup, il y a plein de... J'ai plein de petites formules comme ça. Il y a plein de petits anges. Brel, Barbara. J'ai beaucoup écouté Nougaro aussi pendant un moment, qui a une écriture qui est très très différente, avec beaucoup d'allitération, beaucoup plus jazz. Donc c'est hyper. Et voilà, je trouve que ces gens-là m'ont appris que la langue française, parce qu'on dit souvent oui, on chante en anglais parce que la langue française ça sonne pas. C'est pas vrai. Je pense que au contraire, c'est juste qu'elle est plus dure à faire sonner parce qu'il faut avoir une. Réussir à faire jouer son cerveau de sorte à pouvoir manier les mots, les mélanger, etc. Et bien les utiliser. Mais en fait, c'est quand on sait faire sonner la chanson française, c'est une grâce, quoi. C'est un don, je pense.
C'est un don et un don que vous pratiquez. Et on va en parler justement dans quelques instants à travers une autre date, le 10 février 2016. A tout de suite sur Sud Radio avec Barbara Pravi.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Barbara Pravi. Le 22 mai, vous représenterez la France à l'Eurovision. Une autre date importante dans votre vie, c'est le 10 février 2016, sortie de ce film. C'est le générique d'un film que vous chantez, d'un réalisateur suisse-allemand qui s'appelle Alain Gsostner, je crois. Et c'est une histoire adaptée des dizaines de fois au cinéma, à la télévision, qui sont deux romans cultes de Suisse. Comment vous êtes-vous retrouvée dans cette aventure, Barbara Pravi ?
Oh, c'est pas une histoire très excitante. On m'a envoyé un mail en me disant on cherche une voix, on a pensé à Barbara Pravi, est-ce que ça lui dit ? Puis alors moi j'étais contente parce que à vrai dire c'était distribué par Disney en Suisse, oui. et en Allemagne. Et moi mon but dans la vie c'est quand même, je le dis partout où je vais, de faire un Disney. donc du coup c'était assez marrant à faire. Et puis à cette époque-là j'avais encore jamais fait vraiment de musique. Je me demande même si j'avais commencé été 44 ou pas, je suis pas sûre.
C'est avant.
C'est avant. Hein. Ouais, oui. Et donc du coup voilà, c'était vraiment une de mes premières expériences et je m'étais marrée parce que j'avais bossé avec deux personnes qui s'appellent Silvio et Manon, qui sont aujourd'hui des amis, qui sont des grands éditeurs, compositeurs, etc. Et ils avaient fait cette chanson et c'était vraiment, j'en garde un très bon souvenir. Voilà, c'était marrant. À la fin de la première, j'avais signé des petites dédicaces à des petites filles de 3 ans. Moi, j'étais comme une dingue. Voilà.
Il faut savoir que Heidi est tellement célèbre que la région de Wallenstadt, en Suisse allemande, s'est autoproclamée en 97 Heidiland, le pays d'Heidi.
Ok, voilà. Bah voilà. Peut-être qu'ils connaissent cette chanson par cœur, alors.
Alors la chanson, justement, comment c'est venu ? C'était un rêve chanté pour vous, Barbara Pravi ?
Oui, bah en fait c'était un rêve et c'était pas une ambition parce que pour moi c'était pas du tout envisageable. C'est-à-dire que ça faisait même pas partie de mon prisme de possible, quoi.
Vous connaissiez personne ?
Je connaissais évidemment personne. Et en plus de ça, mes parents m'avaient dit j'ai chanté très jeune. Puis moi, je voulais être Céline Dion, quoi. Donc du coup, j'avais de grandes ambitions en plus. Et en fait, mes parents m'avaient dit, mais ce que je comprends, je pense que la musique et tous les métiers artistiques, d'ailleurs, ce sont des métiers qui sont assez terrifiants parce que on ne sait pas comment on gagne sa vie. Ça peut être très difficile. On peut faire plein d'erreurs et peut-être jamais s'en relever. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup de points d'interrogation à l'endroit du métier artistique, donc je pense que mes parents sont très au courant de ça et ils avaient peur pour moi alors que j'avais 4 ans et ils me disaient si t'es pas Céline Dion, ça sert à rien de vouloir être chanteuse et comme évidemment que tu seras pas Céline Dion, ça sert à rien de vouloir être chanteuse, donc voilà, je me le suis très vite ôté de la tête, quoi.
Et vous êtes devenue serveuse.
Et je suis devenue serveuse, oui.
Pourquoi ?
Ça finit en euse aussi,
oui, oui,
cela dit.
Ça rime.
Pourquoi ? Ben parce que j'ai donc arrêté mes études de droit, parce que j'aimais pas ça. Et puis j'avais très envie de faire de la musique. Et en même temps, ma scolarité a été tellement douloureuse à vivre pour moi, mais à me sortir de situations compliquées pour mes parents, que du coup, après avoir arrêté le droit, je me suis dit, bon, les pauvres, ça fait maintenant 20 ans que je leur pèse sur le système, je vais, puisque je décide de faire un métier qui n'est pas dans leur qui n'était pas dans leur champ de possible quoi. Alors je vais me donner les moyens toute seule de le faire sans leur peser sur la conscience, sur les finances, etc. Et donc c'était vraiment pour me payer ma vie quotidienne en attendant, en essayant en parallèle de faire de la musique quoi.
Voilà, et finalement vous en avez fait une chanson, Je sers.
Et je sers quand ma tête fait des vers et des poèmes. Je sers des bouteilles, des sodas, des cafés crème.
Alors en général, Barbara Pravi, quand on fait ce métier, il y a toujours quelqu'un d'une maison de disques ou un producteur qui vient et qu'on rencontre et avec qui vous discutez. Vous, ça n'a jamais été le cas. Ce sont des copains qui vous ont fait presque débuter.
J'ai rencontré entre guillemets la musique ou le monde de la musique, donc label, etc. Parce que donc j'étais serveuse et j'ai produit un clip avec un ami qui s'appelle Maxime. On est parti en Normandie tourner pendant 5 jours, il faisait froid, c'était horrible. Bon, bref. Et en fait, ce clip-là a été vu très rapidement par Capitol et m'a fait signer chez Capitol. Ouais.
Et parce que vous avez voulu faire ce clip, c'était la seule solution pour tenter de faire quelque chose ?
Oui, et puis parce qu'en fait, quand on me demandait, quand je servais mes dorades et que j'en renversais sur les gens et qu'on me demandait, mais vous faites quoi à part ça ? Parce qu'apparemment, vous êtes nulle. Moi, je disais, je suis chanteuse. Ah, bah, on peut vous écouter où ? Ah, bah, on peut pas m'écouter parce que j'ai rien fait encore. Donc, du coup, pour parer ce truc-là de je suis chanteuse, mais en fait, je fais pas de concert et j'ai rien fait. En fait, j'étais concrètement pas chanteuse. J'ai voulu me donner la possibilité de le devenir un peu, quoi.
Et il a suffi justement d'Internet pour qu'on vous repère ?
Absolument.
Et vous êtes retrouvé dans un univers que vous connaissiez absolument pas.
0%. Mais tant mieux. Enfin, tant mieux ou tant pis. Mais tant mieux plutôt parce que j'ai été bien éduquée par la life. Du coup.
Oui. Mais on m'a dit que le jour où vous signez votre contrat, on vous dit ah c'est toi Barbara, mais t'es pas bonne en fait.
Exactement.
C'est quoi ça ?
C'est certains patrons de maisons de disques.
Ah c'est bien ça.
Ouais, c'est classe.
Alors qu'est-ce que vous avez fait dans ces cas-là ?
En fait, moi, je pensais que c'était une blague. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'aurais probablement pas réagi pareil, mais sur le moment, j'ai explosé de rire. Je me suis dit, oh, il est marrant celui-là. Mais en fait, c'était pas du tout drôle, puisque c'était vrai. Enfin, je veux dire, il s'est avéré que cet homme-là, bon, qui n'est plus du tout à la tête de mon label aujourd'hui,
on
heureusement.
On comprend, oui.
C'est pas pour ça, mais
bon, il y en a eu d'autres.
Il y en a eu d'autres, ouais. Ils ont des. C'est-à-dire que je sais qu'ils peuvent parfois nous voir, nous, les artistes, comme des petits pots de yaourt, quoi, un peu comme on voit dans
des produits.
Exactement. Et donc, du coup, je m'étais rasé la tête. Je ressemblais donc plus vraiment à ce pourquoi il m'avait signé, à savoir ma belle chevelure longue et bouclée. Et donc, je pense que c'est pour ça. Ouais.
Et pourquoi vous étiez rasé la tête ?
Parce que j'étais un peu rebelle, je m'en fichais, je trouvais ça cool.
Alors, il y a même un auteur qui est missionné pour travailler avec vous sur les paroles. Finalement, il trouve que tout ça est très bien.
Qui ça ?
J'ai lu effectivement, il y avait quelqu'un qui a retravaillé vos paroles dans la maison de disques et finalement il a dit mais c'est parfait.
Ah, j'ai travaillé avec plusieurs personnes et c'est vrai que c'était assez énervant parce que c'était souvent le retour qu'on me faisait. C'est oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut pas t'aider, il y a pas grand-chose à changer.
Ouais.
Et en fait, du coup, moi j'étais encore plus paumée parce qu'il y avait la maison de disques qui me disait faut changer et tous les auteurs qu'on me présentait qui me disaient qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?
C'est très bien.
En tout cas, pour la musique que c'était. Et pour l'âge que j'avais, etc., oui, c'était pas mal, quoi.
Voilà. Et la chanson qui est sortie, c'était Pas grandir.
Comment faire si je veux pas grandir, pas grandir ? Comment faire pour ne pas grandir, pas grandir ? Comment faire si je veux pas grandir, non pas grandir ?
Alors, il y a des sonorités pop, c'est pas ce que vous vouliez au départ, Barbara Pravi.
En fait, je savais pas ce que je voulais au départ. Donc ça, c'est mon départ et oui. C'est plus ce que je veux à l'arrivée plutôt. Oui. Moi, j'ai jamais écouté de pop. J'ai travaillé avec une personne qui lui faisait beaucoup ça et qui m'a beaucoup influencée au départ. Et je lui ai d'ailleurs accordé toute ma confiance parce que j'avais l'impression qu'il savait mieux que moi. Et en fait, je suis très fière aujourd'hui d'avoir réussi à comprendre que on n'est pas nécessairement obligé de faire ce qu'on croit qu'il faut faire pour exister et qu'au contraire, il faut être la chose la plus difficile, c'est d'écouter précisément ce que nous dit notre intérieur. Et moi, mon intérieur ne me chante que de la chanson française depuis toujours. Donc, en fait, c'était assez évident de ce que je fais aujourd'hui est assez évident. Mais quand on a 21 ans, qu'on arrive dans un milieu qu'on connaît pas, avec que des gens qui nous disent faut faire, c'est comme ça que tu rentres en radio, c'est comme ça que tu fais machin, c'est comme ça que, comme s'ils avaient toutes les formules magiques, au début, on le croit. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est pas vrai.
Voilà. Et puis c'est une autre époque. Aujourd'hui, vous devenez vedette à la télévision et de la chanson en 3 minutes avec une chanson, alors que Brassens et quelques autres ont mis des années à y arriver.
Bien sûr.
Si aujourd'hui Brassens passait à The Voice, il serait éliminé tout de suite.
Mais évidemment. Et Barbara, le premier album qu'elle a fait, qui était un album de reprise de Brel, d'ailleurs, je crois, il me semble qu'elle en a vendu 10.
Oui. Et elle a fait aussi un album de chansons des 1900 qui a été pire encore.
Mais bien sûr.
Alors, ça veut dire que vous faites ce disque, mais il y a quand même un avantage, c'est que vous allez faire la première partie de la tournée de Florent Pagny, 55 dates, 23 dates.
23 dates, mais le spectacle s'appelle 55 tours, voilà. C'est pour ça.
Et ça a été un apprentissage.
Ah bah c'est pas, pour moi, ça va avec Été 44, c'est quand même des moments de vie qui sont déjà extrêmement intenses. Alors avec Pagny, c'était encore autre chose, parce que j'ai découvert ce que c'était que la tournée, donc du coup j'étais pas dans un tourbus, mais dans un espèce de van, toute la journée sur les routes. C'est des journées où on mange 6 fois par jour, on se rend même pas compte, on fait faire de la voiture et manger, aller sur scène, chanter et reprendre la voiture et manger. Et c'est des rythmes de vie très intenses. Et en même temps, c'était incroyable de pouvoir côtoyer de près une telle star, quoi. J'aime pas ce mot, mais Florent Pagny, c'est quand même quelqu'un de... Puis extrêmement sympa en plus. Donc je suis quand même tombée sur un gars, c'était trop bien.
Vous avez même fait Bercy.
J'ai fait Bercy, ouais, bien sûr.
Ça, c'est un sentiment quand on entre sur cette scène et qu'il y a autant de monde, plus de 10 000 personnes, voire 15 000, c'est étonnant.
C'est très étonnant et surtout, en fait, on ne les voit pas vraiment. C'est tellement grand que je me suis dit, moi, je ne les vois pas. Comment eux peuvent-ils me voir alors que je fais 1m59 sur cette immense scène et que je n'ai pas les grands écrans où on voit ma tronche? Donc, en fait, je pense que ceux qui étaient tout au fond n'ont pas du tout dû me voir.
Voilà. Et puis, il s'est passé encore d'autres choses. On va en parler dans quelques instants avec une date, le 29 novembre 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Barbara Pravi.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Barbara Pravi. Il y a une Eurovision qui s'est déroulée le 29 novembre 2020 et ça s'est plutôt bien passé. Écoutez.
Moi je suis prête.
Ah oui, c'est ça.
Valentina a remporté l'Eurovision Junior avec J'imagine, une chanson de qui ? Barbara Pravi.
Eh oui.
Alors, c'est né comment ? Parce que je crois qu'il y a eu 2 Eurovisions Junior.
Il y a eu 2 Eurovisions Junior. Il y a eu l'Eurovision Junior précédent, qui était avec. C'est Carla qui représentait la France avec une chanson qui s'appelle Bim Bam Toi, que j'avais écrite aussi.
Qui a remporté un TikTok d'or, je crois, le premier de l'histoire.
Exactement, le premier de l'histoire, ouais. Et le second, c'était un Américain qui s'appelle Jason Derulo, qui est genre une immense star, donc c'est très marrant. Et en fait, donc j'ai fait Bim Bam Toi pour Carla, et elle est arrivée 5e, donc qui était quand même une super jolie place. Et du coup, France Télé m'a rappelé pour faire la chanson pour la candidate de cette année. Et voilà, c'est comme ça qu'est née, j'imagine.
Et Valentina, elle avait participé à The Voice Kids et aux United Kids, et elle a gagné, grâce à vous. Comment on fait une chanson ? Comment vous êtes arrivée là-dedans, dans cet univers, la première fois, Barbara Pravi ? Parce que ce n'est pas votre univers habituel.
L'univers des enfants ou l'écriture pour les autres ?
Les enfants ? Les enfants.
Ben, en fait, moi, je suis encore une fois une grande malade de Disney, donc je n'ai pas l'impression d'être arrivée dedans. J'ai l'impression d'être toujours dedans et plutôt d'essayer de m'en sortir de temps en temps. Donc pour moi, faire des chansons pour les enfants, c'est vraiment... Déjà, c'est extrêmement facile parce qu'il suffit juste de... En fait, je ne me mets aucune pression et je me dis juste que je m'éclate, quoi. Et quand c'est des chansons, c'est tout le temps des chansons heureuses. Moi, je suis quelqu'un de très heureux dans la vie, donc c'est tout le temps des choses joyeuses. Je peux pas expliquer, mais je sais si ça plairait à l'enfant qui est à l'intérieur de moi ou pas, quoi.
Voilà. Et en même temps, la première fois, vous êtes arrivé comme ça par hasard ou on vous l'a proposé ?
La première fois, c'était un appel d'offres. On avait, pour Bim Bam, on était, je sais pas, peut-être 200, 300 auteurs-compositeurs sur le coup. Et moi, j'ai fait ça avec un garçon qui s'appelle Igit, qui est un ami avec qui je travaille beaucoup. Et en fait, on a regardé les vidéos de Carla, qui avait fait The Voice Kids, elle aussi, et elle avait proposé une chanson de Björk, une chanson très étrange qui s'appelle It's Oh So Quiet, qui est une chanson très théâtrale. C'est It's Oh So Quiet, et elle fait beaucoup d'onomatopées comme ça. Et on a vu Carla faire ça, et on s'est dit, mais enfin, c'est complètement là-dedans qu'il faut qu'on aille. Elle a l'air complètement jetée, cette fille, elle a l'air trop marrante, elle a l'air de jouer la comédie, elle chante extrêmement bien. Et donc, on a fait Bim Bam en s'inspirant vraiment de ce qu'on avait vu de sa performance sur The Voice Kids. Et on a fait pareil pour Valentina.
Je crois qu'il y a eu 135 millions de vues sur YouTube avec la chanson de Carla.
Ouais, c'est des trucs astronomiques. Et pareil avec J'imagine. Enfin bon, là, on a des millions et des millions de vues sur YouTube avec nos chansons pour enfants. Alors,
la chanson d'enfant, ça a commencé il y a longtemps avec des jeunes artistes. Vous n'étiez pas né. Je crois que je ne sais pas si vos parents étaient nés. C'était en 60. Et c'était un garçon qui s'appelait Le Petit Prince qui chantait C'est bien joli d'être copain.
C'est bien joli d'être copain.
J'adore.
Ah ben voilà, c'est totalement oublié aujourd'hui. Il avait été découvert par Eddie Barclay, c'était un Suisse qui s'appelait Pascal Krug. Il a fait la première partie de Claude François à l'époque. Il a fait les...
C'est super bien, j'adore. Voilà.
Et il a fait les chœurs chez Eddie Mitchell. Et puis, il a, quand la mue est venue, il a arrêté.
Ouais,
il est devenu fonctionnaire dans le canton de Vaud, ce qui est un autre métier.
Le fléau, mais oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est difficile avec les petits garçons. La voix change, quoi.
Alors, votre répertoire, justement, il a évolué quand vous avez repris votre carrière en main. Parce que, une fois que vous avez dit, j'arrête avec cette maison de disques, je me débrouille autrement.
J'ai pas dit j'arrête avec la maison de disques parce que je suis toujours dans la même maison de disques et que je m'entends très bien avec eux. Surtout que, en fait, le patron a changé et ça fait 4 ans que le nouveau patron me laisse faire absolument ce que j'ai envie de faire. J'ai changé, en revanche, tout mon entourage proche. Donc, toutes les personnes avec qui je travaille en étroite collaboration en termes de direction artistique, en termes de choix, etc. Qui était manager, réalisateur, etc., etc. Donc vraiment mon cercle très proche. C'est plus difficile que de changer de maison de disque.
Oui, mais c'est l'expérience justement qui vous a conduit à ça.
Ah complètement, ouais, complètement.
Et vous êtes beaucoup plus tranquille, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus créative.
Je suis tout bien. C'est-à-dire que je suis libre, je suis épanouie, je suis fière, je sais pourquoi je fais les choses, je sais comment je les fais, j'en suis maîtresse de tout, de mes choix, de mes mots, de j'ai fait le bon choix, ça c'est sûr.
Voilà. Alors paradoxalement, c'est un nouveau printemps. Alors que la première chanson que vous aviez enregistrée s'appelle Reviens. Pour l'hiver.
S'il te plaît, reviens pour l'hiver lorsque la nuit mangera le jour. S'il te plaît, pour l'hiver. Faut que tu saches, je vais pas te mentir, ça me.
Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une mélodie, c'est si rare aujourd'hui, Barbara Pravi.
Bah, c'est gentil, merci de le remarquer.
Moi, j'aime.
En fait, je suis très touchée par je dis les grandes mélodies, mais je veux dire les mélodies qui n'ont pas froid aux yeux. Et Reviens pour l'hiver, on n'est pas nécessairement un exemple, parce qu'il y a quand même une mélodie, mais elle est plutôt très douce, elle est plutôt dans la mélancolie. Mais voilà, par exemple, qui est la chanson pour l'Eurovision, c'est quand même une mélodie qui bouge beaucoup, qui va dans les très graves et dans les très hauts. Et ça demande une grande amplitude vocale, et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir ça. Et je trouve ça dommage. Aujourd'hui, on se sert assez peu de sa voix, finalement, en chanson française, je trouve. Ça reste toujours assez dans un spectre assez réduit. Et moi, je suis encore en train, d'ailleurs, d'explorer... j'ai envie d'explorer toutes les possibilités de ma voix, qui est assez grosse, quoi.
Oui, et puis en plus, encore une fois, on a une époque où on m'explique que la chanson, ce sont des sons, et vous faites l'inverse, et c'est pas si courant aujourd'hui. C'est même pas courant à faire admettre aux maisons de disques, Barbara Pravi.
Non, mais bon, encore une fois, j'ai la chance d'arriver, de dire « Tenez les copains, c'est ça qu'on va faire !» Ils me disent « D'accord !» Donc du coup, c'est chouette. Franchement, j'ai aujourd'hui des équipes super cool, et surtout je suis très libre quoi, dans ma façon de faire, et ça c'est ce qui est le plus important pour un artiste.
Oui, et puis la chanson française évolue sans cesse. Elle a commencé, on le sait peu, au moment de la Révolution française, parce qu'avant c'était des baladins chez les rois, et au moment de la Révolution française, sur les marchés, pour se battre un peu contre tout ce qui se passait, on a créé des chansons Au clair de la lune, etc., qui sont devenues les premières chansons françaises, qui étaient en fait des chansons de revendication, et ensuite ça a beaucoup évolué.
Ah, c'est dingue, je savais pas du tout.
Ça, c'est
donc
le début.
C'était toutes plus ou moins des Marseillaises, quoi, quelque
Exactement.
Part.
La Marseillaise qui est née à cette époque-là, qui était le chant de Rouget de Lille pour le départ dans les pays de l'Est. Et parce que les Marseillais sont venus l'interpréter à Paris, c'est devenu la Marseillaise.
Ah, c'est drôle. Voilà.
Alors ça, effectivement, vous suivez, vous vivez avec votre époque, c'est important.
Ah bah oui, de toute façon, ai-je vraiment le choix ? Enfin, je veux dire, je suis une jeune femme de 27 ans, bientôt 28, cela dit. Oui. Non, je suis complètement dans mon temps. Maintenant, c'est vrai que je sais pas bien ce que ça veut dire d'être de son temps, mais... moi, je suis du temps où les gens lisent et où les gens écoutent de la musique avec des mots, des phrases et des... Voilà, c'est tout.
Mais c'est long à écrire une chanson ?
Ça dépend. Ça dépend, il y a des chansons qui viennent assez rapidement. Pour moi, c'est plus facile d'écrire pour les autres que d'écrire pour moi, c'est plus, je mets moins de temps. Parfois, ça peut me mettre 5-6 ans de trouver quand les textes sont un peu douloureux, quand les sujets des textes sont un peu douloureux. Je peux passer vraiment du temps à mon cerveau, mais beaucoup de temps à cogiter. Je fais plein de versions, je reviens dessus beaucoup. Et puis parfois, en une nuit, je me réveille la nuit avec des paroles quasiment écrites. Donc, c'est assez... Il n'y a pas vraiment de règles.
Oui, mais il y a deux choses différentes. Quand vous écrivez pour vous, il y a un côté autobiographique. Et oui. Pour les autres, c'est différent.
Ah, totalement. Totalement. Et c'est pour moi beaucoup plus facile d'écrire pour les autres parce que du coup, c'est un peu comme tout, c'est toujours plus facile de donner des conseils à ses amis que de se les appliquer à soi. Et bien, c'est un peu pareil pour les chansons. Il y a un endroit où c'est plus facile d'écouter l'autre et de retranscrire ce qu'on ressent ou ce qu'on perçoit de lui que de retranscrire à la perfection ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, parce que c'est toujours un petit peu plus mélangé.
Alors, il y a quand même une liste impressionnante de gens pour qui vous avez écrit. Il y a Yannick Noah, Julie Zenati, Chimène Badi, Florent Pagny, Louane. Comment c'est venu tout ça?
Un petit peu... Julie Zenati, on s'est rencontrés il y a quelques années et c'est devenu une amie. Donc en fait, j'ai pas écrit... Pour elle, on a écrit ensemble parce que c'est vraiment une... Elle fait tout. Hein. En vrai, elle n'avait même pas besoin de moi. Je pense qu'elle m'a appelée juste parce qu'elle était contente d'avoir sa copine avec elle. Florent Pagny, c'est venu par Calogero qui m'a appelée. J'ai sorti un disque l'année dernière, en février dernier, dans lequel il y avait Reviens pour l'hiver. Et suite à ça, il m'a appelée. Il m'a dit, écoute, voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais essayer d'écrire sur mes mélodies, etc. Donc, on a travaillé ensemble comme ça pour Florent Pagny, du coup. Yannick Noah, c'était un appel d'offres. Donc il n'y a pas de règles, ça peut arriver de partout. Et par contre, ce qui est joli, c'est que depuis que mes projets fleurissent un peu plus et de façon un peu plus grand public, on m'appelle beaucoup plus pour mes qualités d'autrice. Avant, quand tu réponds à des appels d'offres, ça peut être moi, ça peut être un tel, une telle, on s'en fiche. Et là, de plus en plus, on m'appelle... parce que j'ai une patte et que c'est cette patte-là qu'on vient chercher.
Et cette patte que vous avez travaillée, et finalement, c'est instinctif, mais la lecture a aussi beaucoup compté. Le travail que vous avez fait personnellement.
Ah, c'est sûr. Pour moi, je ne veux pas faire de généralité, mais je crois quand même que c'est difficile d'employer... à un moment donné, on devient bloqué quand on n'a pas les clés pour pouvoir faire fleurir ce qui se passe à l'intérieur. Et pour moi, ce qui permet au cerveau de se renouveler sans cesse, etc., c'est la lecture. Donc je pense que si on est un auteur et qu'on lit pas du tout, je crois qu'à un moment donné, on se retrouve un peu pauvre de mots, pauvre de sens, pauvre de synonymes, pauvre de plein de choses, et même de rêves, quoi. Parce que la lecture, c'est ça aussi, c'est le rêve, hein.
Alors, le travail se fait avec un copain qui s'appelle Guit, et on vous appelle les experts tous les deux.
Alors, on s'auto-appelle les experts. Oui. C'est un peu notre blague. Parce qu'en fait, avec Guit, c'est que pendant longtemps, on a fait beaucoup de chansons qui n'ont jamais été prises. Donc, on s'appelait les losers, en fait, avant de s'appeler les experts. Et puis un jour, on a fait Bim Bam, et cette chanson a été quand même un carton. Et là, on s'est dit, vas-y, viens, on transforme notre lose en expertise. Et on s'appelle les experts, ça suffit. Et on va appeler le succès maintenant. Et en fait, c'est notre blague, hein, mais personne ne sait ça. Maintenant, tout le monde le saura, mais à la base, c'est juste un nom sur WhatsApp.
Voilà, exactement. Alors, Les Experts, c'est une série de télévision. La première qui évoquait les méthodes et les techniques utilisées par les détectives légaux, comme l'utilisation de l'ADN et toutes sortes de crimes. Et il y a une autre forme de crime, et là, c'est sérieux, vous combattez, vous défendez les droits des femmes. Et le point de départ pour ça, c'est une chanson que vous avez interprétée.
20 ans, c'est beau, non? Pourtant, tu sais pas bien. La confiance à zéro. Tu bois des verres en trop pour te sentir un peu moins. Tu flambes, tu fais la belle, tu fais comme si de rien. Mais au fond, tu te vois comme ils te regardent, eux, sans valeur, sans avenir, sans douceur, sans plaisir. Et tu crois que le
là,
sexe est lié à
la violence. Là, on est carrément dans une chanson presque slam, s'appelle Cher. Et c'est quelque chose de très important pour vous, Barbara Pravi.
La défense, et puis en fait, plutôt toutes les questions autour de la femme, toutes les réflexions autour de la femme. La défense en fait partie, évidemment. Bien sûr que c'est important, mais c'est important parce que déjà je suis une femme, et puis parce que, en fait, quand j'ai compris, à un moment donné, je sais pas exactement quand est-ce que s'est fait la prise de conscience, mais je me suis rendu compte que toutes les injustices que je ressentais, elles étaient liées à ça. Elles avaient tout un point commun, et ce point commun, c'était le fait que j'étais une nana et qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais que je devais faire beaucoup plus pour être acceptée au même point qu'il y a des, enfin par exemple cette chanson parle d'avortement. En tout cas, je me suis rendu compte que j'avais vécu énormément de choses et qui avait empilé énormément de colère et énormément de questionnements et énormément de gêne et énormément de choses qui m'ont donné un rapport à moi un peu compliqué, avec beaucoup de manque de confiance, avec beaucoup de peur. Et je me suis rendu compte que le socle commun à toutes ces choses-là, c'était le fait d'être une femme et d'avoir beaucoup de questions sans réponse.
Alors, il y a eu plusieurs chansons là-dessus. Vous avez adapté Kid dites près tout en version féminine. Il y a eu Note pour trop tard d'Orelsan que vous avez adapté. Et surtout, vous défendez un féminisme qui est un vrai féminisme, c'est-à-dire où le dialogue est plus fort que le combat verbal.
Ah, bien sûr. Non, mais de toute façon, alors après, je comprends et Dieu sait comme j'entends et toutes les formes de colère et toutes les formes de combat et celles qui sont beaucoup plus j'allais dire enragées, même si c'est pas du tout le mot que je cherche, parce que c'est pas du tout, je trouve qu'il dessert, alors que celles qui sont beaucoup plus en colère que moi, je le comprends et je l'accepte, et je pense que c'est important que toute forme de parole existe. Maintenant, c'est vrai que ma façon à moi de c'est j'essaye vraiment de... En fait, j'essaye vraiment de prendre conscience de toutes les choses que j'ai vécues et comment est-ce que moi, elles m'ont transformée. Et qu'est-ce que j'ai fait pour transformer la douleur et la souffrance et les blessures en force lumineuse. Et voilà, c'est à cet endroit-là que se situe ma parole à moi.
Alors, le premier à avoir employé le mot féministe, c'est Alexandre Dumas dans un pamphlet anti-féministe qui s'appelait L'homme-femme en 1791. Et ben, il a aussi écrit 20 ans après. Nous, on va parler de 20 ans après, mais quelques semaines après notre émission, le 22 mai 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Barbara Pravi.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été. 13h-14h, Jacques Pessis.
Cette émission a été enregistrée quelques semaines avant l'Eurovision. Barbara Pravi avoue ses espoirs sur cette soirée de télévision et ils n'ont pas été déçus puisqu'elle a obtenu une brillante seconde place.
Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu, j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi. Ou du moins ce qu'il en reste.
Alors, ce Grand Prix se déroulera à Rotterdam, où il devait avoir lieu l'an dernier, et vous avez gagné la sélection française. Comment c'est arrivé, Barbara Pravi, tout ça ?
Très vite. C'est arrivé très vite. On m'a, en fait, du coup, comme j'ai travaillé pour France Télévisions et pour l'Eurovision pour les enfants, quand j'ai appris qu'il y avait un concours cette année, ils m'ont proposé de le faire. Et j'ai accepté, en précisant néanmoins que si je le faisais, je choisissais tout, à savoir la chanson, la scénographie, enfin voilà, que j'arrivais avec un projet et pas avec juste quelque chose un peu entertainment machin. Moi, je viens et avec.
Ils ont accepté. Parce qu'en accepté. En général, ils refusent ce genre de choses.
Bah oui, et en fait, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un très 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 bon rapport avec eux. Et surtout, je crois que, force était de constater qu'ils étaient face à quelque chose dans le sens quelque chose de construit, et que donc c'était pas destructible ce truc-là. Donc c'était soit oui, soit non. Et donc ils m'ont dit oui, et on s'entend hyper bien. Et c'est chouette parce que je me rends compte que là, depuis que j'ai gagné, il y a évidemment beaucoup de choses à faire pour appartenir à la famille Eurovision, etc. Et des choses qui sont formidables, mais on est d'accord pour les faire toujours aller dans mon sens, c'est-à-dire pour que ça me ressemble toujours, et j'ai beaucoup de chance parce qu'ils sont très à l'écoute de ça, et c'est cool, ça aurait pu ne pas être le cas. Oui. Et c'est super chouette.
Alors cette sélection, ça a été la trouille de votre vie, je crois.
Ah ouais, c'était terrible. Franchement, c'était terrible. Et puis alors, pour l'anecdote, j'avais tellement envie de faire pipi sur scène. C'était terrible. Vraiment, moi, je me souviens presque que de ça, quoi.
Et alors, petit à petit, les votes ont commencé. Vous pensiez gagner ?
Non, non. Et puis, alors, en fait, j'en avais vraiment pas la moindre idée. Parce que ce que j'ai trouvé vraiment intéressant et vraiment intelligent, c'est qu'on était 12 et il n'y avait aucun projet semblable. Donc personne ne se marchait dessus et il y en avait surtout pour tous les goûts. Donc en fait, moi j'étais très fière de ma chanson, enfin je suis très fière de ma chanson et de ma prestation, et enfin de la prestation qu'on a faite d'ailleurs avec France Télé, que ils ont été, je trouve, géniaux. On a tout fait ensemble, les lumières, la façon très proche de moi, comme ça, c'est avec cette caméra à l'épaule, etc. On a tout décidé ensemble. Et donc, moi, j'étais hyper fière de ma prestation. En revanche, je me disais, mais les gens viennent de passer une année chez eux. S'ils ont envie d'écouter une musique qui les fasse danser, bah, clairement, c'est pas pour moi qu'ils vont voter. Donc, je n'avais aucune attente, si ce n'est de donner le meilleur de moi, quoi.
Alors, en général, l'Eurovision, depuis quelques décennies, c'est les paillettes, la technologie, la danse, effectivement. Vous, c'est tout à fait autre chose, Barbara Pravi.
Alors, c'est tout à fait autre chose, alors ça, c'est sûr. C'est pas de paillettes, pas de danse, pas de technologie. Non, mais par contre, c'est drôle parce que j'ai regardé, du coup, je me suis fait un espèce de récap Eurovision depuis les années 50, 1950. Et il y avait... et en fait, c'était... je me sens très proche des premières personnes qui ont fait l'Eurovision. Déjà, il y avait beaucoup de chansons en français. C'était des vraies chansons, enfin des vraies chansons. Je dis pas qu'il y avait des fausses chansons, mais c'était des chansons françaises vraiment. Et moi, je me sens très proche de ça. Donc finalement, je suis un peu Eurovision à l'ancienne, mais je suis quand même très Eurovision, quoi.
Voilà. Alors justement, on va faire un petit récap de cette Eurovision à l'ancienne. Elle a été inventée par le directeur général de la télévision suisse, qui s'appelait Marcel Besançon. Il s'était inspiré du Festival de San Remo, qui était un concours qui existait. La première édition a eu lieu à Lugano, le 24 mai 1956. Il y avait 7 pays fondateurs, et la gagnante, c'est Lisacia, avec Refrain.
Refrain, ah. Couleur du ciel, parfum de mes 20 ans.
C'est beau.
Jardin.
Ça vous touche, hein,
j'adore, mais moi ça j'adore. Donc voilà, je suis
pas très loin. Hein.
Pas très loin.
Alors, on a dit aussi, parce que vous, tout est noir, que vous aviez un côté piaf dans cette chanson. Vous le pensez, Barbara Pravi?
En fait, ce que je ne peux pas ne pas remarquer, c'est qu'on fait précisément la même taille et qu'on se ressent même un peu physiquement.
Oui.
Donc ça c'est sûr. Maintenant, je suis pas plus influencée par Piaf que par Brel, Barbara, Nougaro, encore une fois Brassens, etc. Donc en fait, et je crois aussi qu'on a besoin. Il y a quelque chose de rassurant dans le fait de se dire que quelqu'un nous rappelle quelqu'un d'autre. Et si ça rassure de se dire que... Et si ça me fait gagner l'Eurovision de dire que je suis la nouvelle Piaf, bah écoutez, faites-moi gagner en disant ça, moi ça me va. Mais, et puis surtout, quel compliment. Mais non, en fait, dans mes influences, il n'y a pas plus de Piaf que de n'importe qui d'autre qui écrit, qui chante et qui me bouleverse, quoi.
Oui, enfin, il y a quand même un décor noir autour de vous.
Alors, c'était une volonté d'avoir, de pas avoir de décor, en fait. Donc c'est un décor noir, c'est pas de décor avec juste des lumières. Et après, il y a une chose qui est réelle, c'est que moi, le noir, c'est une couleur qui me va, qui me va bien, mais dans laquelle je me sens très bien. On m'a proposé, par exemple, on m'a dit, pourquoi tu mettrais pas du blanc pour le concours de l'Eurovision le 22 mai? Et en fait, pour moi, voilà, surtout particulièrement cette chanson, qui est une chanson intérieur et extérieur à la fois, qui demande une très très grande concentration et un très grand alignement. Pour moi, c'est une chanson qui porte la couleur du noir, mais pas la couleur du deuil, la couleur du noir, de l'humilité noire, quoi, de quelque chose. Je veux pas qu'on regarde autre chose, je veux pas qu'on écoute autre chose que cette chanson quand on l'entend. Et je voudrais pas qu'on se mette à regarder ma robe rouge parce que je suis flamboyante, mais enfin, c'est-à-dire c'est tellement pas à cet endroit-là que se situe, voilà, que c'était important pour moi d'avoir quelque chose de très sobre. Et la sobriété, pour moi, c'est le noir.
Voilà. Et Piaf, d'ailleurs, avait une robe noire. Et elle l'avait choisie en pensant, on l'oublie toujours, à une chanteuse réaliste qui s'appelait Damia. Qui au départ portait une robe rouge. Et Guitry lui a dit, mais vous devriez porter une robe noire, ça vous irait beaucoup mieux. Damia a porté une robe noire et Piaf s'en est inspiré.
Ah d'accord, je ne savais pas.
Donc tout ça vient de Sacha Guitry au départ, comme beaucoup de choses en France. Alors, et d'ailleurs, Piaf a écrit une centaine de chansons, on l'a oublié.
Bien sûr, c'était une grande autrice. Mais voilà. D'ailleurs, il me semble que c'est même elle qui a écrit « Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer », l'hymne à l'amour.
Il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est que les deux premiers vers, elle travaillait tête à tête avec son locataire, qui était Charles Aznavour, et c'est Aznavour qui a trouvé les deux premiers vers, elle les a pris, et à la fin, il a écouté la chanson, il a dit « Ta chanson, c'est un hymne à l'amour ». Elle dit « Très bien, ce sera le titre ».
C'est génial.
C'est comme ça que c'est né.
Aznavour,
on n'a pas réclamé de droit, parce qu'à l'époque, on ne réclamait pas de droit. Et ben voilà, tiens, on va encore écouter un extrait.
Me voilà, tant pis. Voilà,
C'est vraiment presque pas autobiographique, mais pas loin.
Ah si, 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 c'est très autobiographique, même tout ce que je fais en général, il y a sinon une part d'autobiographie, la totalité quoi, d'autobiographie.
Alors suite de l'Eurovision Story, je dirais, avec quelqu'un qui a gagné en 61, parce qu'il y a eu des Français qui ont gagné, l'a un peu oublié.
Clavaux.
Clavaux n'a pas gagné, mais Jean-Claude Pascal, il a participé. Je suis pas sûr qu'il ait gagné. En revanche, Jean-Claude Pascal a gagné avec Nous les Amoureux.
Ah oui.
Nous les amoureux.
Oh oui, c'est joli.
On voudrait nous séparer. On voudrait nous empêcher d'être heureux.
Je l'adore, je l'adore.
Oui, alors cette chanson, en plus, elle a une histoire. C'est qu'on lui a donné 8 jours avant. Il l'a appris en catastrophe. Et il ne croyait pas du tout qu'il allait gagner. Et il a gagné à Cannes en 61.
Ah, oh, génial. J'aime bien ces histoires-là, moi.
Et il a passé le flambeau à une autre chanteuse qui est toujours dans notre cœur et qui continue à chanter. C'est Isabelle Aubray.
Et moi,
un premier amour, et elle est la seule aussi à avoir participé deux fois à l'Eurovision. Elle est revenue en 68 avec La Source, où elle a fini troisième.
Ah bon?
Oui.
Donc elle a fini première et troisième.
Voilà.
Ah bah, moi je vais faire ça, si jamais je fais 5, je retournerai pour faire 1.
Et ces chansons vous touchent, Barbara Pravi?
Ben, en fait, moi j'aime les chansons, j'aime la musique aussi qu'il y a derrière, l'orchestration. J'aime beaucoup, enfin en fait j'aime les chansons orchestrées, donc du coup moi les petits comme ça de flûte derrière, je trouve ça sublime, les cordes, ça me... En fait je trouve qu'il y a un espèce de tout grandiose, mais pas grandiose au sens trop grand, grandiose au sens pur et fin et mélodieux, qui me bouleverse, moi, dans cette chanson-là.
Il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est que la dernière chanson en français qui a remporté ce prix, c'était pas Marie Myriam, c'était celle-ci.
Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre, vous qui volez vers d'autres.
Céline.
Céline Dion, elle a gagné en 88 pour la Suisse, et ça a lancé sa carrière internationale. Et dans la même sélection, il y avait Gérard Lenormand qui a fini 10e pour la France,
ah ouais,
et Lara Fabian qui a fini 4e pour le Luxembourg.
Dis donc, c'est d'accord, ok. Lara et Céline dans la même promo, c'est voilà. Cool.
Il y a quelque chose de très important pour vous, c'est la gestuelle, Barbara Pravi.
Ah ben, voyez-vous.
Oui, non, mais sur scène, les
oui,
gestes.
Oui, mais partout, tout le temps, je parle beaucoup avec mes mains. Et oui, sur scène, en fait, le... Par exemple, je m'accompagne pas au piano. Bon, déjà parce que j'en ai pas vraiment le niveau qu'il faut avoir pour jouer. Moi, j'ai besoin d'un accompagnement de piano, donc j'aurais pas le niveau, mais je pourrais jouoter un peu comme ça. Et je le fais pas parce que je sers de tout mon corps pour chanter. Je me sers de mes épaules, je me sers de tous les muscles de mon visage. Je me sers beaucoup de mes mains, beaucoup de mes bras. Je me déploie ou je me referme. Et il y a vraiment des... Et voilà, et donc pour ça, j'ai vraiment besoin de... C'est tout mon corps qui est mon instrument et pas seulement ma voix, quoi.
Mais c'est une tradition aussi de la chanson française. Yves Montand passait des semaines à régler chaque geste et j'ai vu Trenet en train de répéter un après-midi devant une glace chaque mouvement de main pour que ce soit parfait. C'est essentiel pour un chanteur.
Alors ça, c'est très fort parce que je vais vous dire, moi, je me suis dit que sur Voilà, j'allais faire ça parce que c'est une chanson qui le permet. Et en fait, ça met... impossible. C'est-à-dire que peut-être sur d'autres chansons, je pourrais le faire. Sur cette chanson-là, chaque nouvelle interprétation, elle donne accès à une nouvelle façon de me mouvoir. Mais parce qu'en fait, sinon, je perds mes paroles et je perds le sens de ces paroles. Et vraiment, pourtant, j'ai essayé et j'étais sûre que j'allais y arriver détente. Et en fait, pas du tout. Donc voilà, j'abandonne l'idée de d'écrire mes mouvements à l'avance sur cette chanson parce que j'ai besoin de... En fait, elle dit quoi? Elle dit voilà qui je suis. Et qui je suis, c'est au moment présent. Et donc, il faut que je sois présent au moment présent, exactement dans l'énergie dans laquelle je suis au moment présent. Et si le 22 mai à Rotterdam, ben, il m'est arrivé une merde avant et que je suis triste, alors je la chanterai tristement, cette chanson. Et si je suis extrêmement heureuse, alors je la chanterai avec une immense joie. Et en fait, elle aura la valeur et la chaleur et l'intensité vraie du moment présent.
Alors on va écouter encore un petit bout.
Voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. Regarde.
Oui, vos yeux, vos mains, tout y passe. Et le 22 mai, ben, je pense que vous allez vous préparer tranquillement à cette date. Et puis, ce sera un soir et puis il y aura la suite.
Ah, de toute façon, il y aura la suite, c'est sûr. C'est un passage qui va être immense et probablement le plus gros passage de ma vie, mais il n'empêche que c'est, pour moi, ça fait partie du chemin, et je suis en train de travailler sur mon album.
Et puis je suis sûr que vous ferez encore beaucoup d'autres choses et qu'on en reparlera dans Les Clés d'une Vie
mais
sur cette
avec
radio.
Avec grand joie, merci beaucoup.
Merci à vous, Les Clés d'une Vie, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.